Potlatch 90.1 FM de la bande FM à la bande organisée. De la bande organisée à la bande FM.
Bonjour à tous, nous voilà de retour avec Potlatch. Aujourd'hui, c'est Potlatch contre les élections, avec une intervention de Ali Kebir de son texte Sortir de la démocratie qui a eu lieu au Mont de Charge en décembre dernier, et une interview de Vincent Bonnecaze, chercheur au LAM, le laboratoire des études africaines de Sciences Po Bordeaux, qui intervient, lui, sur les déceptions démocratiques dans les pays africains du Burkina Faso et du Niger. L'interview a été aussi réalisée au Mont de Charge il y a 2 semaines. Et ensuite, il y aura aussi des lectures de textes sur les thématiques de la séduction, de la manipulation et du pouvoir. On commence.
Désolé pour le retard, c'est pas moi. Là, je suis content d'être là, je suis content de découvrir ce lieu qui est quand même assez extraordinaire. À Rennes, on n'a pas eu la chance de pouvoir pérenniser. Donc je vais vous parler de la démocratie, donc un peu autour de mon livre et au-delà. Je vais parler par déformation professionnelle, j'ai tendance à faire du cours magistral, donc comme l'a dit Julien, n'hésitez absolument pas à m'interrompre si vous commencez à vous ennuyer et si vous avez des choses à dire, et donc ça sera plus vivant si vous le voulez, et sinon bon, bah, je continuerai à dérouler, mais a priori je parlerai 30 à 40 minutes, ça ne devrait pas être trop long. Donc je vais partir du caractère, de ce qui me semble en tout cas être le caractère paradoxal de notre expérience politique contemporaine. Nous vivons à l'heure du triomphe de la démocratie, ou du triomphe absolu de l'idéal politique qu'on appelle démocratie, et pourtant cet idéal a jamais été autant désenchanté. Triomphe d'un côté, désenchantement de l'autre. Nous sommes tous démocrates à présent. C'est le titre d'un article de Wendy Brown, que vous trouverez dans un petit collectif aux éditions à la Fabrique, sur la démocratie, justement, la démocratie dans quel état. Nous sommes tous démocrates à présent, et pourtant nous sommes tous désenchantés vis-à-vis de la démocratie. La démocratie est pour nous la définition même du bien politique, et de ce fait, il n'y a plus aucune autre opposition, il n'y a plus aucun autre référent, il n'y a plus aucun autre idéal qui viendrait s'opposer à elle. Il y a eu historiquement le royalisme, il y a eu historiquement le communisme, mais aujourd'hui, on le sait très bien, ils ont plus ou moins reflué, plus ou moins disparu. Et pourtant, donc, au même moment où la démocratie devient hégémonique, où le référent démocratique devient dominant, il inspire en même temps le plus grand des désenchantements. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler comment se traduit concrètement ce désenchantement. Par l'abstention électorale, par la défiance vis-à-vis des institutions et des professionnels de la politique, et surtout, me semble-t-il, ce qui accompagne, ce qui m'intéresse le plus en fait, ce qui accompagne le phénomène d'hégémonie démocratique, c'est en même temps le sentiment d'impuissance collective, une sorte de mélancolie commune, parce que depuis la disparition de l'horizon communiste, on n'a plus en quelque sorte de quoi rêver, on peut dire. On continue à désirer certains mondes meilleurs, quand je dis « on », c'est pour parler de manière très très générale. Mais, et c'est là le sentiment de la mélancolie, il y a en même temps la certitude, diffuse dans nos sociétés, qu'on ne pourra jamais atteindre ce monde meilleur. Une phrase anonyme qui est un peu, qui circule un peu et qui résume parfaitement l'esprit du temps, c'est cette phrase, elle dit « L'avenir n'est plus ce qu'il était ». Tel est donc le paradoxe qui se niche aujourd'hui sous le mot de démocratie. l'hégémonie exclusive d'un horizon au sujet duquel nous sommes pourtant désenchantés. Donc, la démocratie, en même temps qu'elle s'affirme, en même temps qu'elle charrie avec elle les idéaux de souveraineté populaire, est en même temps le synonyme d'une perte de puissance politique. Et tout en étant le synonyme de perte de puissance politique, nous, on continue quand même de s'y accrocher en essayant de revivifier la démocratie, de démocratiser la démocratie, de relancer la représentation, d'être plus radical, etc., en démocratie. Alors, vu cette situation étrange, la question qui s'est imposée à moi est la suivante. Dans ces conditions, puisque l'avènement de la démocratie n'a fait que susciter notre rejet et consacrer en même temps notre impuissance, comment en est-on arrivé à l'accepter précisément comme notre horizon ? Pourquoi est-ce que on n'investit pas tout simplement un autre idéal ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de changement dans les référents politiques que l'on se donne ? Alors poser une telle question, c'est prendre le risque de remettre en cause la démocratie, de dire que finalement, ce n'est peut-être pas ce qui nous convient, ou en tout cas de pointer qu'il existe éventuellement d'autres possibilités que la démocratie. Et comprendre l'hégémonie de la démocratie, c'est donc nécessairement faire sa critique. Alors je ferai une précision ici. Quand je parle de démocratie hégémonique, de démocratie dominante ici, je ne parle absolument pas de démocratie libérale. C'est pas à ça que je fais référence. Ou plus exactement, je ne parle pas seulement de la démocratie libérale, parce que la démocratie libérale, telle qu'on la connaît, avec le vote, etc., n'est qu'une des formes possibles de l'hégémonie démocratique. En fait, je parle de toutes les formes d'attachement à la démocratie, qu'elles soient radicales, agonistiques, délibératives, participatives, locales, sanitaires, ou tout ce qu'on voudra, libérales ou non libérales, républicaines, socialistes, etc. Par le mot de démocratie, en fait, ce que je désigne, c'est une sorte de toile de fond, une sorte de réservoir d'évidence diffuse et partagée par tout le monde, de gauche comme de droite. Et cette toile de fond, c'est précisément la limite constitutive de ce qui est politiquement pensable pour nous, ce qui est politiquement dissible et ce qui est politiquement faisable. Et cette toile de fond, donc, qu'est la démocratie, a un double aspect. Premièrement, elle est un signifiant, ce qu'on peut appeler, alors c'est du jargon, un signifiant flottant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa signification n'est pas bien déterminée, qu'elle n'est pas arrêtée, et que, en quelque sorte, à chacun sa version de la vraie démocratie. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de signification précise qu'elle n'a aucune réalité. Au contraire, c'est précisément parce qu'elle est indéterminée, parce qu'elle est flottante, que ce mot est flottant, qu'il est efficace. Par son imprécision même, le mot de démocratie rassemble tout le monde, même les plus opposés, dans un même espace de pensée et d'action. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il n'existe plus de critique externe de la démocratie, au nom d'autre chose que la démocratie, par exemple, mais uniquement des critiques internes de la démocratie. Si bien que toute critique de la démocratie aujourd'hui est une critique dans la démocratie, puisqu'on cherchera toujours à dire, en fait, la démocratie existante n'est pas assez démocratique, du coup, on veut plus de démocratie, ou on veut une démocratie autrement, etc., etc. Deuxième caractéristique de cette toile de fond, c'est qu'elle fonctionne comme un emblème, c'est-à-dire comme une série d'énoncés, et de pratiques qui sont dotées d'une grande force symbolique et dont l'effet est de rassembler autour de lui les sujets, les gens, en leur conférant une identité commune à la manière d'un drapeau national. Nous sommes les démocrates, nous, démocrates. Et comme emblème, le signifiant démocratie est un signe de ralliement dont la caractéristique est d'être, comme le dit Badiou, parce que le terme d'emblème, je lui reprends, la caractéristique donc de cet emblème qui rassemble les gens est d'être précisément intouchable. Il est comme le sacré de nos sociétés. C'est-à-dire qu'il échappe absolument à toute critique, qu'il ne se fasse pas en son nom. Et cette toile de fond, donc l'emblème et le signifiant flottant, cette toile de fond, c'est ce qui constitue, c'est ce qui fabrique, c'est ce qui produit la subjectivité politique contemporaine en général. C'est-à-dire notre culture politique, la manière dont nous pensons, parlons et agissons politiquement. Alors, face à cette situation, moi, ce que je propose de faire, ce que j'ai proposé de faire, c'est une généalogie, en fait, de cette toile de fond. Une histoire de la constitution, donc, de cette subjectivité démocratique qui nous caractérise. Une histoire qui a pour vocation d'en questionner l'évidence et pour ainsi dire d'en opérer, d'opérer un retour réflexif, un retour critique sur la manière dont nous, aujourd'hui, nous pensons les conditions de notre émancipation. La question politique que je pose, hein, si vous voulez, c'est peut-on encore continuer à articuler nos luttes en termes de démocratie si cela a pour conséquence de nous maintenir dans le cadre d'une toile de fond, précisément, qui organise notre impuissance. Alors je précise ici encore que je n'aborde pas la démocratie sous l'angle habituel sous lequel elle est abordée en philosophie politique, c'est-à-dire que je ne vais pas la considérer comme une forme de gouvernement ou un agencement d'institutions dont il faudrait interroger la forme légitime. Donc on ne va pas se demander c'est quoi la démocratie, est-ce qu'elle est légitime ou non, puis une fois qu'on aura répondu oui, parce qu'on répond oui en général, on ne va pas se demander quelle forme de démocratie il faudrait, est-ce qu'il faudrait une directe, est-ce qu'il faudrait une indirecte, est-ce qu'il faudrait une conflictuelle, une autre apaisée, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. Par ailleurs, je ne la considère pas non plus comme une doctrine politique. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un signifiant flottant, elle a un contenu qui est indéterminé. Du coup, ce n'est pas une doctrine précise. Du coup, j'aborde la démocratie, j'y insiste, avant tout comme une subjectivité, une forme de subjectivité politique qui est historiquement située. C'est une subjectivité politique, c'est-à-dire une manière d'être, une manière de penser, une manière de parler, une manière d'agir. Ce que je propose donc, c'est une histoire des conditions effectives de constitution de cette subjectivité. Autrement dit, la question est de savoir comment sommes-nous devenus exclusivement démocrates.
Until love comes to you. Pretend you found the one you prayed for, just like you used to do. And when the right one comes along, dear, that's why you've got to wait until love comes to you. Pretend you found the one you've prayed for, just like you used to do. And when the right one comes along,
ce processus historique-là, je le périodise en deux étapes. La première étape va de la Révolution française au milieu à peu près du XXe siècle, et le second, en gros, celui qui commence au milieu après la Seconde Guerre mondiale et qu'on connaît aujourd'hui. Et le premier, donc, je l'appelle régime de l'unité ou régime unitaire. Donc le régime de l'unité consiste en une double opération, produire un public unifié, qu'on appelle la nation, d'une part, tout en conjurant, la pression révolutionnaire de la rue et conforter évidemment les intérêts capitalistes qui commencent à s'organiser à cette époque. Alors pour ce qui est de la production de la nation et la conjuration des velléités révolutionnaires, à la fin donc, du XVIIIe siècle, on a évidemment donc, l'augmentation des populations urbaines, apparition des masses dont les attroupements sont potentiellement dangereux pour le pouvoir, hein, qui y voit des foules séditieuses. Et il y a deux façons de traiter précisément ces actions collectives. Sous l'Ancien Régime, bah, évidemment, c'était l'interdiction bête et méchante des réunions et la répression brutale et spectaculaire. Mais après la Révolution, sous la République, la Première République, il y avait toujours la nécessité pour les républicains de rétablir l'ordre et de gérer des masses insurrectionnelles, mais très vite, la seule répression est apparue comme inefficace. Et c'est dans ce contexte que la démocratie émerge, de mon point de vue, comme une technique de gouvernement, une technique d'établissement ou de rétablissement de l'ordre. Alors, il s'agit précisément de canaliser ces masses, ce nombre, de le canaliser, en transformer la nature même, transformer la nature de leurs pratiques politiques et les conduire à ne plus agir directement dans la rue et plutôt en les poussant de plus en plus, petit à petit, à n'adopter que l'usage policier de la parole, l'usage policier de la parole publique, dans les seuls lieux qui sont prévus à cet effet. Par exemple, la loi de 1791, une des lois de 1791, autorise la liberté de la presse et le droit de réunion. Mais l'objectif n'est pas tant le progrès de la liberté, mais celui de garantir l'ordre public. Et d'ailleurs, vous noterez que la Déclaration des droits de l'homme, la première, 1789, l'article 4 sur la liberté d'expression, donc vous avez le droit de vous exprimer, mais il y a un truc qui manque, il y a un truc qui est absent dans l'article 4, c'est le droit de réunion. Et le droit de réunion, c'était très important. Pourquoi est-ce qu'il était absent de la... Pourquoi est-ce que les républicains, quand ils ont rédigé la première déclaration des droits de l'homme, le droit de réunion, c'est très simple. Ça veut dire qu'il y a un attroupement sur une place publique qui est prêt à prendre le pouvoir. Et très vite, donc, vous pouvez vous exprimer, mais par contre, vous le faites la manière dont on va vous dire de le faire. Donc, il s'agissait de canaliser les masses. Et canaliser les masses, ce n'est pas les laisser s'époumoner anarchiquement et gratuitement. C'est un projet bien plus ambitieux. Il s'agit de produire précisément l'unité nationale. Et l'une des techniques employées par les républicains au XIXe siècle, donc là j'avance un peu, ce sont précisément les réunions publiques qui sont les ancêtres des actuels meetings. Alors leur fonction, c'est de discipliner, d'organiser la prise de parole publique de façon à dégager une volonté générale, la volonté de la nation une et indivisible. Alors, et ce dispositif permet précisément de faire quoi ? Il permet de transformer une masse, une foule, éventuellement séditieuse, de la transformer en public. Chacun met ses opinions en délibération pour qu'un avis général soit peu à peu dégagé par la discussion. Et du coup, comme ça, on peut former petit à petit, en montant en généralité, l'unité de la nation. Et donc, vous voyez bien que cette police démocratique constitue les sujets politiques comme des sujets, de plus en plus exclusivement, d'opinion, hein, des sujets d'opinion et de parole qui sont tournés vers l'unité. Or, ceci correspond à l'élimination de toute pratique qui passe par l'action, et qui passe par le conflit, justement. C'est-à-dire les pratiques révolutionnaires de l'époque. Très rapidement, le lien avec le capitalisme à cette même époque, chercher à constituer l'unité nationale via des techniques de délibération, des techniques de communication, etc., a évidemment joué en faveur du capitalisme ou a servi le développement du capitalisme. Parce que le régime de l'unité nationale qu'instaure la police démocratique a eu aussi pour fonction, quand vous faites un territoire, quand vous faites un État avec des frontières, etc., ça a eu pour fonction précisément de protéger d'offrir à la bourgeoisie un espace protégé, un marché protégé, le marché national, qui est protégé précisément de la concurrence internationale dans laquelle la bourgeoisie pouvait se lancer tout en gardant une solution de repli dans le marché intérieur. Donc là, je reprends les thèses d'Immanuel Wallerstein sur ce sujet. Et par ailleurs, la police démocratique permet aussi de discipliner les individus, de discipliner le prolétariat, qui ne pourra plus agir donc directement contre ses patrons, hein, mais qui, petit à petit, sera donc contraint de passer exclusivement par le dialogue. Deuxième période, deuxième époque, ce que j'appelle le régime réticulaire. Alors cette seconde période se caractérise par un processus donc toujours de pacification publique, mais qui prend une autre forme et qui passe par d'autres moyens. Ah pardon, qui relève du réseau. Qui relève du réseau. Il s'agit précisément, cette fois, non pas donc de prendre une multitude de bases et de monter peu à peu en généralité, sur un modèle pyramidal, si vous voulez, pour constituer la nation. Il s'agit plutôt, cette fois, maintenant, de disposer en réseau, de connecter, si vous voulez, les gens, et de déconnecter, pour le coup, les révoltes. Et dès les années 60-70, on a assisté, comme on le sait, on a assisté dans les années 60-70 à une forte poussée insurgente partout dans le monde. Et puis ensuite, on a aussi eu les crises économiques, etc. Donc une période de bouillonnement politique à laquelle le pouvoir va devoir réagir. Et la conjonction donc de ces phénomènes, évidemment potentiellement exclusive. Et là aussi, donc, il va être question de domestiquer les sujets politiques, mais cette fois par une façon nouvelle. Alors si, sous le régime de l'unité, donc c'est le précédent régime, on visait la constitution d'une totalité close, la nation, hein, qui est une entité englobant et surplombant les sujets, qui en sont des parties intégrées, sous le régime réticulaire, on vise maintenant plutôt l'articulation des sujets en réseau indéfiniment ouvert, déterritorialisé. Donc on ne vise pas leur intégration comme partie dans un tout, mais on vise plutôt la circulation de leurs paroles, leur circulation même, c'est-à-dire on va les rendre flexibles, on va les rendre mobiles. Et il est toujours question, ici, de produire des gens qui parlent dans un espace public plutôt que des gens qui agissent sur des places publiques. C'est la différence entre l'espace public et la place publique. Mais il n'est pas question ici, cette fois, de délibération. C'est plutôt de communication dont il s'agit. La différence, elle passe entre le fait que la délibération consiste, donc on va discuter entre nous pour chacun son opinion, puis on va essayer de monter en généralité pour trouver un point de vue commun, qui va nous englober tous. Donc ça, c'est le cas typique. Donc il y aurait quelque chose comme un consensus unitaire. Avec la communication, c'est autre chose. L'objectif, c'est pas de trouver quelque chose comme un consensus unitaire ou englobant. L'objectif, c'est plutôt de brancher les sujets et leurs opinions en réseau. Au lieu de monter en généralité, les opinions vont circuler, et elles vont circuler dans différents systèmes sociaux, entre les institutions locales, les associations, les entreprises, l'État, etc. Et ça vous donne des choses comme ce qu'ils appellent aujourd'hui la gouvernance. C'est-à-dire, précisément, vous n'avez plus la gouvernance, vous n'avez plus des citoyens qui se rassemblent ou qui se rassemblent virtuellement pour délibérer, monter en généralité. Vous avez plutôt des acteurs, donc que ce soit l'État, des associations, des groupes plus ou moins organisés, des ONG, etc., qui se retrouvent avec des intérêts divergents et qui vont essayer, de façon transnationale, de façon déterritorialisée, de faire circuler des savoirs pour pouvoir gérer des situations, puisqu'il s'agit de gestion. Alors, je donne juste un exemple rapide par exemple, dans la politique de la ville. Comment est-ce qu'il est important pour discipliner les individus de recourir donc à la discussion. Et notamment la politique de la ville parce qu'ils ont mis en place à partir des années 70, ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie locale ou démocratie de proximité. Donc parallèlement, c'est que parallèlement aux premières émeutes qui commencent à apparaître donc, dans ces années-là, et qui vont devenir un phénomène de plus en plus banal des sociétés post-industrielles, il y a l'idée de chômage de masse, vous avez des catégories de population qui sont reléguées, qui sont exclues, et donc vous avez des émeutes qui reviennent de manière ponctuelle, et il s'agit de canaliser cette population-là. Qui est potentiellement insurrectionnel. Et la politique de la démocratie de proximité va précisément jouer un rôle là-dedans. Et si on prend un exemple, celui du comité de quartier, c'est un des dispositifs qui sont mis en place selon les villes, hein, ça dépend. À quoi sert le comité de quartier ? Outre l'objectif officiel qui est de donner la parole aux citoyens, etc., ça je mets de côté. À quoi ça sert politiquement ? Le but, c'est de réunir les habitants pour les faire s'informer, parler et donner leur avis. Et du coup, à cette époque-là, émerge un nouveau sujet politique qu'on appelle l'habitant. Maintenant, dans le jargon de ces milieux-là, on parle d'habitant. Et contrairement aux citoyens du 19e siècle, cet habitant ne se donne pas, ne va pas donner une opinion qui va être amendée pour ensuite monter en généralité. Il va plutôt produire un savoir sur sa réalité immédiate, son quartier, dans ses diverses dimensions. Et d'ailleurs, donc, dans la littérature concernée, que ce soit les administrateurs ou que ce soit les gens, les politistes qui travaillent sur le sujet, on parle, l'habitant est désigné comme expert d'usage. Hein, c'est plus un citoyen, c'est un expert d'usage. Et la multitude des savoirs qui vont être extraits par la communication vont ensuite être ventilés, hein, ils vont être dispersés, ils vont circuler dans les réseaux, au sein du réseau, donc des acteurs plus ou moins institutionnels, plus ou moins formels, qui vont être concernés par les problématiques... les problématiques qui leur importent. Donc associations, entreprises, mairies, etc., etc. Et ce sont donc des savoirs pragmatiques, ou en tout cas on veut produire des savoirs pragmatiques, qui vont former des réseaux d'agents capables d'agir dans un même monde, avec un même mode de pensée, prétendument idéologiquement neutre. Et ce dispositif, évidemment, il va neutraliser par avance toute pratique insurgente, dont la caractéristique est précisément de tracer des frontières claires par opposition à un réseau. Le réseau, par définition, il n'y a plus de frontières. C'est une extension infinie. Donc, alors que l'insurgence ou l'action insurgente, elle est de tracer des frontières claires, de désigner les adversaires et de manifester le fait que les sujets, que les gens et le pouvoir n'appartiennent pas précisément au même monde. 21st century.
21st century.
Le rapport au capitalisme, c'est que cette nouvelle police démocratique, disons réticulaire, va aussi ne va pas du tout constituer un rempart contre ce dernier. Et toujours en exemple, toujours en exemple dans la politique de la ville, vous avez le but avoué clairement de ces dispositifs là, de comités de quartier, etc. Le but qui vraiment, c'est de cibler les jeunes qui sont au chômage, qui sont des potentiels émeutiers, qui sont des victimes du chômage et du déclassement, pour les rendre employables. Je cite, ils sont employables, ils seront employables parce qu'ils seront disciplinés du fait qu'ils seront capables de discuter avec les gens, etc. Employables sur le marché du travail. On veut faire des choses très concrètes, leur faire perdre leurs attitudes perçues comme violentes et menaçantes pour leur apprendre à s'asseoir, tout simplement. À s'asseoir, c'est vraiment la discipline des corps. À s'asseoir, à attendre avant de prendre la parole, etc., etc., et ce, afin qu'ils deviennent utilisables comme force de travail. Potentiel, évidemment, force de travail flexible, parce que ce sera sur la forme du CDD ou genre de choses. Bon, je passe sur d'autres exemples. Peut-être le management contemporain. Alors ça, c'est des choses qu'on peut trouver chez Boltanski et Ciapello dans le bouquin qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ». C'est le fonctionnement du nouveau management dans les entreprises, c'est précisément qu'il fonctionne à l'horizontalité et au réseau. Justement. Il fonctionne selon des dispositifs horizontaux. Pardon. Donc au lieu d'avoir des structures hiérarchiques tayloristes à l'ancienne, où vous avez un ingénieur ou un patron qui donne des ordres, et puis ensuite le salarié qui est un exécutant, un simple exécutant, maintenant vous avez des dispositifs, typiquement, je prends un exemple, un truc qui est apparu dans les années 60-70 au Japon, qui s'appelle le cercle de qualité. C'est quoi un cercle de qualité? Eh bien on réunit les employés en mettant entre parenthèses leur statut. Donc ils sont tous égaux a priori. Et la situation d'égalité va justement permettre de mieux identifier les problèmes et de collaborer plus efficacement, dans l'esprit du nouveau management. C'est précisément l'horizontalité, c'est paradoxalement l'égalité elle-même qui est un levier pour l'exploitation salariale. C'est plus efficace de faire comme ça, c'est le capitalisme à visage humain. L'égalité, donc, cela a l'avantage de neutraliser par avance toute révolte du travailleur, parce que à quoi ça sert de se révolter si vous êtes déjà l'égal de votre patron ? Ne se percevant plus comme le subordonné, le salarié et son patron deviennent des collaborateurs aux intérêts communs, aux intérêts partagés. Et la révolte qui suppose précisément la division et la projection de mondes opposés est ainsi rendue tout simplement impossible. Donc je dirais, pour finir, que pour sortir de la démocratie, il ne suffit pas donc de la déconstruire ou de la critiquer comme je viens de le faire. Et ça, c'est peut-être une limite, je vous le propose comme ça en discussion parce que je ne vais pas vous faire un nouveau topo sur autre chose. Mais il semble qu'il faudrait redoubler ou continuer en fait cette généalogie critique par un double geste. Premièrement, il conviendrait de réinvestir l'esprit utopique, c'est-à-dire de relancer un double travail consistant à relancer un imaginaire politique positif, c'est-à-dire de proposition, c'est-à-dire imaginer de nouveaux mondes, précisément pour sortir de la mélancolie. Le mélancolique, c'est celui qui n'a plus de désir. Alors ce qu'il nous faut, c'est du désir. Ce qu'il nous faut, c'est du désir, désirer un autre monde. Et désirer un autre monde, c'est être utopique. Et il ne faut pas hésiter à être utopique, me semble-t-il, de mon point de vue. Précisément, ne pas hésiter à être utopique pour ne plus se contenter de luttes défensives. Et c'est ça qui permettra de relancer peut-être la radicalité des propositions qui ne se réduiraient plus donc à l'amélioration de l'existant, mais qui ferait une scission, qui proposera en tout cas une scission radicale d'avec lui. La politique utopique est en ce sens anticommunicationnelle justement. Elle ferait blocus au système réticulaire. Deuxièmement, le contenu. Quel est le contenu de cette utopie évidemment ? Qui doit faire pièce à la démocratie ou en tout cas venir proposer quelque chose d'alternatif, moi je propose tout simplement de l'appeler communisme. Alors pourquoi le communisme ? Je propose ici, je vous donne une citation de Bernard Asp qui dit, me semble-t-il, l'essentiel à ce sujet. Voilà, je le cite. « S'il convient de réinvestir l'idée de communisme, c'est dans la mesure où le vocable « démocratie » ne peut nommer, d'une part, une rupture avec le monde du capital suffisamment conséquente pour qu'elle soit irréversible. Et d'autre part, une affirmation de ce que peuvent être les relations entre les êtres qui ne se réduisent pas à l'amélioration de leur sort actuel. L'affirmation d'un horizon qui correspondrait à une perception claire de ce que serait un monde désencombré du règne du capital. Que doit être le communisme ? Il ne peut être une forme de société définitivement réalisée, un mode de gestion sociale ou une nouvelle police. C'est pas ça qu'on veut. Mais il ne peut plus être non plus conçu comme la fin de la politique, la disparition des divisions, la fin du pouvoir, la disparition de la domination, etc., ou la réconciliation finale. Ça, on n'y est plus non plus. Ce qu'il doit être, me semble-t-il, c'est un processus infini d'insurgence qui consiste en une activité inachevable d'émancipation, de proposition utopique. Il est le processus par lequel les communistes travaillent chaque jour et indéfiniment à étendre l'égalité et la liberté par l'expérimentation concrète de nouvelles formes de vie à un degré de masse critique, enfin, donc l'étendre à un degré de masse critique à même de renverser effectivement les processus policiers actuels. Quelques visages qu'ils prennent. Ce que je veux dire par là quand je dis quelques visages qu'ils prennent, c'est-à-dire que même si demain, mettons, un pouvoir communiste venait à dominer, ça ne veut pas dire que c'est achevé, ça veut dire qu'il faut continuer la lutte infiniment. Le travail communiste, donc, excède toujours son actualisation dans des formes instituées. Et comme le dit, je cite le collectif pour l'intervention qui a fait un petit livre qui s'appelle « Communisme, un manifeste », le travail communiste permet, je le cite, une perpétuelle mise en question par sa propre politique, que dès lors, il ne peut jamais s'approprier définitivement. Voilà.